Chers collègues, d'abord je voudrais remercier le comité d'évaluation pour avoir sélectionné ma présentation. Et aujourd'hui je vais vous parler de bioressources et de bioraffinerie du futur. Donc je suis chimiste, mais je ne vais pas vous parler beaucoup de chimie en fait. Donc voici comment est organisée ma présentation. Je vais faire une brève introduction sur la problématique. Ensuite, je vous parlerai de la nature et de la composition de la biomasse, on va définir ce que c'est. Et enfin, je mettrai cette biomasse en perspective dans les nouveaux concepts de bioraffinerie que je vais un petit peu démystifier ici. Donc tout d'abord l'introduction. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais voici le système étudié, qui est notre planète Terre, et qui peut sembler de premier abord, un système qui est fermé. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout, puisqu'il y a de très nombreux apports extérieurs. Tout d'abord, on estime qu'environ 10% de l'eau sur Terre viendrait de l'espace, donc des comètes, mais encore et surtout, on a un apport énergétique phénoménal qui nous provient de cette source d'énergie extérieure qu'est le Soleil, avec une énergie absorbée par notre planète par an qui atteint ce nombre faramineux d'environ 4000 10 puissance 21 joules, à comparer à ce qui est utilisé pour la photosynthèse qui représente environ 3 10 puissance 21 joules. Et si on met en dessous de cela le chiffre de la somme des consommations humaines par an, qui est de 0,5 10 puissance 21 joules, on se retrouve avec un facteur à peu près 6 par rapport à la photosynthèse, d'où l'idée d'utiliser cette énergie de la photosynthèse pour les besoins non seulement énergétiques, mais aussi en matière de l'humanité. Donc l'énergie solaire, on sait déjà l'utiliser. Par exemple, ce que j'ai appelé la voie ici, instantanée peut-être improprement, qui est par exemple pour les cellules photovoltaïques, pour l'électricité. On voit aussi maintenant fleurir ce qu'on appelle des chauffe-eau solaires sur les toits des maisons. Donc le principe, c'est de faire circuler de l'eau sur le toit qui est tout simplement réchauffé par le soleil. Je voulais aussi mentionner la catalyse ici, la photocatalyse, hein, qui utilise donc les photons pour effectuer des réactions. Je viens moi-même du domaine de la catalyse, donc j'ai mentionné ce sujet-là. Et la voie que j'ai appelée, peut-être un peu par provocation indirecte, puisque c'est la voie qui est créée par la nature, qui est la photosynthèse que tout le monde connaît. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce flot d'énergie et de matière? On a la photosynthèse ici, qui nous donne, au bout de quelques jours, quelques mois, quelques années, les végétaux, qui sont ensuite transformés en ressources fossiles, donc le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Donc finalement, utiliser ces ressources fossiles ou utiliser les végétaux, finalement, c'est utiliser l'énergie solaire. Et notre civilisation est en passe de remonter un petit peu dans le temps. On commence à utiliser les végétaux pour les besoins de l'industrie chimique notamment, et peut-être que dans le futur, on saura maîtriser la photosynthèse directement à façon. Alors, des chiffres un petit peu controversés, ce sont les statistiques de BP dont on vient juste de parler, donc c'est en 2009, hein, je n'ai pas repris les chiffres un peu plus récents, mais bon, tout le monde a conscience de ce problème. Les ressources en charbon, vous le voyez ici, il en resterait pour 183 années. En gaz naturel, 64 ans, mis à part tout ce qu'on a dit sur les gaz de schiste. En pétrole, il en resterait pour 44 ans. Ensuite, on a aussi des ressources dites non conventionnelles, qui sont par exemple le pétrole qui est difficilement extractible ou qu'on traite très difficilement par les méthodes physico-chimiques de séparation, de dépollution, etc. Si l'on compare ces ressources aux ressources générées en un an par la biomasse, on a en un an l'équivalent à 70 ans du besoin mondial en ressources. Donc c'est un peu différent du facteur 6 que je vous ai présenté précédemment, mais ça vient juste du fait qu'ici on considère toute l'énergie impliquée dans la biomasse et non pas l'énergie, uniquement l'énergie efficace comme c'était fait dans le transparent précédent. Donc l'idée ici, c'est bien entendu de valoriser la biomasse. Donc la nature est la composition de la biomasse, puisque le mot biomasse en lui-même n'est pas un mot très vieux. Il y a 30 ans, on ne parlait pas de biomasse. Alors, j'ai repris la définition du Parlement européen que vous pouvez lire ici, qui a été adoptée en 2008. Mais dans la suite de l'exposé, je vais plutôt m'intéresser à la biomasse végétale, à l'aquaculture, donc les algues, et à l'industrie forestière. Donc, la biomasse, l'utiliser, c'est pas nouveau. On sait très bien le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici. On la mange. L'alimentation, on peut faire des objets en bois, on peut la brûler pour faire un barbecue par exemple, on peut utiliser le lin, le coton pour l'habillement, on peut faire du papier et du carton, donc ça c'est pas vraiment une utilisation triviale parce que ça fait quand même appel à des procédés chimiques relativement complexes, mais c'est pour vous dire que les personnes qui sont dans cette salle en train de prendre des notes sont en train d'écrire sur de la biomasse. Donc voici un peu les applications, je dirais, directes. Maintenant, les applications chimiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est en fait pas nouveau du tout. Donc j'ai repris ici, j'ai vu que mes collègues aussi ont repris des traités anciens, donc je pense que c'est un fil conducteur ici, un traité de chimie de Berzelius, qui dit que, sur la saponification. Lorsque l'on fait digérer des huiles grasses avec de l'alcali caustique, il se forme une combinaison soluble dans l'eau que l'on appelle savon. Elle est connue de toute antiquité et Pline en fait mention sous le nom de sapo que l'on fait dériver dans l'ancien germanique sapo. Donc c'est ce qui est dans ce texte. Et en effet, à l'époque des Romains, dans l'Antiquité, on savait extraire l'huile, qui n'est pas si simple que ça en réalité. On savait brûler des végétaux pour divers besoins. On récupérait les cendres qui sont riches en potasse. On mélangeait le tout et on obtenait du savon. Donc c'est une valorisation chimique de la biomasse, alors qu'à l'époque, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire de la chimie. C'est uniquement en 1823, si je ne m'abuse, oui, que Gene Chevreul a écrit cette réaction et on a compris ce qui se passait quand on faisait ce mélange. Maintenant, je vais faire une petite digression, je vais vous parler un peu de la nature cellulaire de la biomasse. Donc on s'éloigne un peu de mon domaine de compétence qui est la chimie, mais j'en ai besoin ensuite pour utiliser ces molécules pour faire de la chimie. Donc je me suis ici concentré sur deux choses, les cellules eucaryotes, donc qui possèdent un noyau à gauche, et ce qu'on appelle les oléosomes, qui sont le siège des huiles dans les végétaux. Et les huiles, on peut les utiliser pour la chimie. Donc tout d'abord, les cellules eucaryotes. Donc ici, c'est une représentation d'une cellule eucaryote avec les différentes organelles, hein, les mitochondries, etc. Où est-ce qu'on trouve des choses intéressantes dedans pour un chimiste? D'abord, dans les vacuoles. Ici, on a la vacuole centrale qui contient des sucres, mais encore et surtout dans les murs qui délimitent en fait les cellules, ce jeu de briques que sont les cellules. Et ces murs contiennent une quantité phénoménale de matière que je vous présente ici. Donc, en fait, les murs sont constitués de différentes, couches. Vous avez de la pectine qui fait la cohésion entre ce jeu de briques de cet édifice constitué par les cellules. La pectine, on la connaît tous. En fait, c'est ce qui fait le liant dans les confitures. C'est ce qui fait qu'une confiture a une cohésion. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des murs primaires et des murs secondaires. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais quand même vous montrer ce que c'est. Donc les murs primaires, en fait, ce sont des arrangements de polymères naturels, de sucre, donc des sucres à 5 carbones ou à 6 carbones, qui sont organisés comme ceci. Ça m'amène à la structure des murs secondaires, donc qui enveloppent les cellules, qui ne sont pas forcément présents dans tous les végétaux, mais les murs secondaires, c'est à peu près la même chose. Ce sont les mêmes polymères, ou un peu différents en nature chimique, qui sont dans de la lignine. Et en fait, c'est une structure qui est équivalente à celle du béton armé où vous auriez les barres d'acier, qui sont ces polymères linéaires, et le béton, qui est la lignine. Et ces murs secondaires sont les murs qui font que certains végétaux sont durs. C'est beaucoup plus solide. Maintenant, passons aux oléosomes. Alors, là, je suis chimiste et j'ai eu un petit problème parce que j'ai trouvé très peu de références sur les oléosomes et il semble, alors mes collègues biologistes pourraient peut-être me contredire, que ça ne soit pas si bien connu que ça. En fait, un oléosome, c'est constitué d'une gangue de phospholipides et d'oléosines et à l'intérieur, vous avez les huiles qui intéresse plus particulièrement le chimiste, bien que les phospholipides soient très intéressants pour faire des réactions chimiques. Et ici, je vous ai montré ceci pour vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça que d'extraire de l'huile et de l'avoir pure pour faire de la chimie. En fait, on se retrouve avec des problématiques d'extraction. Si on veut faire de la chimie et notamment de la catalyse, on a besoin d'avoir des produits très purs pour éviter d'empoisonner les catalyseurs qui sont utilisés derrière pour faire les réactions chimiques. Donc avant de faire de la chimie, il faut avoir les composés purs. Donc ici, je vous donne aussi des estimations globales, parce qu'on veut faire des bioraffineries, mais avant de faire une bioraffinerie, il faut connaître la ressource. Quelles sont les ressources disponibles et en quelle quantité? Donc, on considère que la matière organique la plus abondante sur la Terre, c'est la cellulose qui serait entre 30 et 50% de la biomasse. Ensuite vient la lignine, donc le béton du béton armé, des murs secondaires, qui représenterait pour environ 20% de la biomasse. Mais on se retrouve aussi avec toute une autre collection de molécules exploitables, qui sont par exemple l'hémicellulose, donc c'est à peu près comme de la cellulose, sauf que ce sont principalement des sucres en C5 par rapport aux sucres en C6 de la cellulose, l'amidon, les protéines, les huiles, les sucres, donc plutôt les glucides, etc. Et ici, je vous ai représenté un camembert pour vous montrer l'importance de la cellulose et de la lignine par rapport à ces, entre guillemets, autres. Donc, toute cette biomasse, on cherche à en faire quelque chose. Donc ici vient le concept de bioraffinerie intégrée multidisciplinaire. Donc je vais vous présenter le concept que je développe plus particulièrement, qui est un des trois concepts que l'Europe a sélectionné. Donc il y a trois projets de bioraffinerie en ce moment qui sont financés par l'Europe. Donc le projet Eurobioref que je dirige, le projet Biocor, qui est aussi dirigé en France, cette fois-ci par l'INRA, le projet Suprabio et un projet de networking qui est le projet Star Colibri. Donc nous avons tous des approches, j'allais dire différentes, mais ce n'est pas vrai, des approches complémentaires pour donner des produits chimiques différents. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bioraffinerie? Donc je vous ai dit en introduction que je voulais un peu démystifier ce qu'est une bioraffinerie. Quand on parle de bioraffinerie, souvent, ce qui vient à l'esprit, c'est une usine. En entrée, vous avez de la biomasse, et en sortie, vous avez des carburants. Non, c'est complètement fou. Ça, c'est peut-être une bioraffinerie, mais d'ancienne génération, ce n'est pas viable, on le sait maintenant. Une bioraffinerie, c'est quelque chose qui est calqué sur le modèle d'une pétroraffinerie. En entrée, vous avez une ressource. Ici, on a, en l'occurrence, des ressources, différents types de biomasse, différents types de molécules que je vous ai montrées, qui sont converties, effectivement, en carburant, mais pas seulement. Il faut aussi faire des produits chimiques, parce qu'un jour, il faudra savoir comment on obtient les produits chimiques qui sont maintenant obtenus à partir du pétrole, des polymères, etc. Donc, c'est quelque chose qui est complet. Donc, le message que je voudrais faire passer ici, c'est carburant, certes, mais pas seulement, parce que le concept n'est pas viable, ne serait-ce qu'économiquement. Donc, les objectifs plus précis du projet Eurobioref, c'est de produire notre ressource nous-mêmes. C'est complètement différent d'une pétroraffinerie où on va la chercher et on l'extrait. Là, on a la chance de pouvoir faire pousser des plantes, de sélectionner les plantes qu'on voudra utiliser. Donc, c'est produire une grande diversité de biomasse durable. Donc, concernant les carburants, on a choisi de faire des kérosènes, mais aussi de faire beaucoup de produits chimiques, comme je vous le disais. C'est très important pour la viabilité du concept. Et on a ici ces divers chiffres qui ne sont pas de la publicité, mais ce sont des objectifs très précis pour assurer la viabilité de la bioraffinerie. Par exemple, de faire du 0% de déchets, d'augmenter l'efficacité de 30%, énergétique, etc., etc. Alors ici, je voulais vous montrer aussi quelque chose de concret, les ressources qu'on utilise actuellement, qu'on fait pousser dans ce concept de bioraffinerie. Donc ce ne sont que quelques exemples, puisqu'on a encore d'autres plantations. Là, c'est ce qui est en ce moment en train de pousser dans nos champs. Donc je suis désolé pour la qualité, c'est pas très joli, mais on a des oléagineux. Donc je vous montre quelques exemples ici, par exemple l'huile de ricin. Des composés lignocellulosiques qui, comme leur nom l'indique, sont là pour nous apporter lignine et cellulose, qui sont les molécules les plus abondantes sur Terre pour la biomasse. Donc on en sélectionne certaines, par exemple ici le sol ou la switchgrass, le black locust. Mais aussi, bien entendu, on peut utiliser des matériaux résiduels de l'agriculture ou par exemple d'une papeterie. Par exemple, dans une papeterie, quand on veut faire du papier de bonne qualité, on sépare au maximum la cellulose de la lignine, et quand vous avez des papiers sur lesquels on peut bien écrire, etc., c'est parce que la quantité de cellulose est très importante. La lignine, si on pouvait en faire quelque chose, ça donnerait une valeur ajoutée, ça pourrait pérenniser un peu plus cette filière en apportant des produits, en dégageant des fonds, donc de la valeur ajoutée supplémentaire plutôt que de la brûler, parce qu'on a toujours le choix de brûler pour l'énergie. Donc, ça fait un petit peu catalogue, mais c'est les produits que nous visons, les produits chimiques, notamment, que nous visons dans le concept EuroBioRef, et vous voyez que c'est extrêmement diversifié. Parmi ces produits, certains peuvent être mélangés pour faire des kérosènes, mais certains sont aussi utilisables dans des applications, par exemple, on peut citer des applications cosmétiques dans les parfums, dans l'industrie chimique en aval pour d'autres transformations, pour donner d'autres molécules, ou comme monomère pour faire des polymères, puisqu'il faudra bien remplacer tous les plastiques dérivés de la pétro-industrie, par exemple, par des plastiques dérivés de la biomasse, quand on n'aura plus le choix, de toute manière. Donc ici, c'est, je dirais, le concept fondamental de cette bioraffinerie, qui est donc flexible, adaptable, multidimensionnel. Alors, je rebondis sur la conférence du professeur Villani. En fait, faire une bioraffinerie, c'est quelque chose de très complexe et, effectivement, ça fait appel à la programmation linéaire, puisque vous avez divers endroits où vous avez de la biomasse, donc des champs, divers endroits en Europe, vous avez des climats différents. Dans le sud de l'Europe, vous avez des oléagineux, principalement. Dans le nord, vous aurez de la matière lignocellulosique. Vous avez aussi différents coûts de l'électricité, par exemple, en Europe. C'est-à-dire que si vous voulez implanter une usine quelque part, vous avez des coûts d'électricité, vous avez des coûts de main-d'œuvre, et vous vous retrouvez avec un système avec énormément de contraintes et d'équations. Rien que pour savoir où vous allez placer la bioraffinerie, rien que d'un point de vue logistique, c'est déjà compliqué. Donc c'est déjà des problèmes à résoudre en dehors de la chimie dont je suis spécialiste. Donc nous produisons notre biomasse. La première étape, c'est de séparer. Donc déjà, par exemple, on doit séparer les huiles de l'organgue, on doit séparer la lignine de la cellulose, etc. La seconde étape, ce sont des procédés biochimiques. Par exemple, un procédé biochimique qui est connu depuis très longtemps, c'est faire du vin. On transforme des sucres en alcool. Donc là, on peut transformer diverses molécules issues de la biomasse en diverses molécules plateformes, pas forcément de l'éthanol, d'autres molécules, qui sont ensuite réagies, soit, encore une fois, par des procédés biochimiques, des procédés de catalyse homogène hétérogène, des procédés thermochimiques. Une fois qu'on a fait ça, il faut tout de même pas oublier d'intégrer le tout, puisqu'on va se retrouver avec plein d'étapes, des étapes de séparation, des étapes chimiques, des étapes biochimiques, des étapes thermochimiques. Et ici, il faut faire appel à ce qu'on appelle du process design pour fabriquer une brique élémentaire de la bioraffinerie. Ce que j'appelle une brique élémentaire, c'est on a une biomasse, on la traite par des procédés, on obtient un produit. Mais ça ne fait pas une raffinerie, ça fait juste une petite usine qui produit un produit. Il faut assembler ensuite le jeu de briques de manière rationnelle pour copier une pétro-raffinerie, avoir en entrée multi-biomasse et en sortie multi-produits avec différents volumes pour le marché, différentes valeurs ajoutées, qui font que l'ensemble est cohérent au niveau économique, puisque c'est vrai que l'économie, on l'a vu, ça dirige pas mal de choses, mais aussi le concept. Ici, je rebondis un peu sur toutes les conférences de mes collègues, à un aspect éthique, puisque on peut se poser la question de savoir si la biomasse qu'on va cultiver ici, il ne va pas être en concurrence avec l'alimentaire. Effectivement, il peut y avoir des soucis. Mais nous, on a résolu ces soucis par des systèmes de rotation de culture. Enfin, on a résolu. On est en train de le faire par des systèmes de rotation de culture, puisqu'on a certaines plantes envisagées pour leur usage chimique qui améliorent la qualité des sols, tout simplement parce qu'elles augmentent le taux d'azote dans le sol. Elles détruisent les parasites qui peuvent s'y trouver. Et donc, en optimisant la rotation des cultures, on peut arriver à produire la biomasse nécessaire pour la bioraffinerie, mais en même temps, avec les cultures alimentaires, on peut les booster et obtenir de meilleurs rendements. Donc on se met dans un système gagnant-gagnant, je dirais. Donc on va se retrouver avec des scénarios de bioraffinerie qu'on peut implanter en Europe. On va faire ce qu'on appelle une business platform, Et on espère que le concept va se développer rapidement et on a déjà des démonstrations qui sont en route à l'échelle semi-industrielle actuellement. Donc là, je réinsiste encore une fois sur ceci, c'est que notre but commun dans cette bioraffinerie qui intègre des biochimistes, des chimistes, des économistes, je vais en oublier des gens du génie du procédé, des gens qui font de l'analyse de cycle de vie pour vérifier qu'on n'utilise pas trop d'eau, pour vérifier qu'on ne produit pas plus de CO2 qu'on ne le ferait dans une pétroraffinerie, ce qui serait ridicule puisque ça serait l'inverse de ce qu'on veut faire. On veut quelque chose de durable en remplacement de la pétroraffinerie. Donc on fait des carburants tous ensemble, mais en même temps des produits chimiques pour venir se substituer à tout ce qui existe maintenant, tout ce qui vient d'une pétroraffinerie. Donc ça ne se fera pas en 5 ans, ça ne se fera pas en 10 ans, puis ça se fera à plus long terme, mais il faut bien commencer à un moment, et ces trois concepts de bioraffinerie sont là pour poser les jalons de départ, et on espère aller bien entendu le plus loin possible, le plus vite possible. Donc je me dois, comme j'ai présenté ces transparents, de remercier l'Europe pour le soutien financier, et je voudrais remercier aussi pour votre attention.
Nous avons le temps maintenant pour quelques questions.
Je voulais savoir comment vous séparez la lignine, sous quelle forme elle est une fois qu'elle est séparée, et qu'est-ce que vous comptez faire, parce que ça, c'est un des problèmes. La cellulose, d'accord, en principe, on sait la convertir. Pratiquement, il y a des problèmes, mais on peut aller de la cellulose à l'éthanol. Conceptuellement, on n'a aucun problème. Mais avec la lignine, on a pas mal de problèmes. Donc, j'étais assez curieux pour savoir comment vous en prenez à ça.
Alors, c'est une question assez technique que vous me posez. Donc, ce problème-là, dans le consortium, il est traité par la société norvégienne Borgard, qui a une grande expérience de séparation de la lignine et de la cellulose. Donc, si vous me posez cette question, c'est que vous connaissez les procédés organosolve, etc., ou les procédés qui donnent de la lignine sulfonique. Donc, là, il y a un brevet qui a été pris et une démonstration qui est en train d'être faite d'une usine qui sera opérationnelle en 2012. Donc, je ne peux pas vraiment communiquer sur ce procédé qui sera... qui est actuellement en cours de validation par une démonstration. Ce que je peux vous dire, c'est que la lignine derrière a plusieurs applications possibles. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir soit la dépolymériser, soit la fragmenter de manière propre pour obtenir des molécules qu'il ne faudra pas trop séparer. Puisque découper la lignine, à la limite, on sait le faire, mais on la découpe n'importe comment, on se retrouve avec une sauce infâme. Et faire de la chimie fine là-dessus, la liqueur noire qui sort des papeteries. Donc cette liqueur noire, ici, dans le projet, on va l'utiliser pour donner plusieurs types de produits différents. Je l'ai un petit peu montré, mais je suis passé très vite dessus. Donc, première chose, H2O2. Deuxième chose, aussi, du méthylmercaptan, CH3S-CH3. Qui tire avantage de la liqueur noire qui contient du soufre. Donc on utiliserait aussi le soufre présent dans la liqueur noire. Donc vous avez mis le doigt dessus, ici dans ce concept de bioraffinerie, on utilise effectivement la liqueur noire que l'on transforme en syngas, le gaz de synthèse, donc CO plus H2 plus impureté, et ensuite on fait des composés à partir de ce gaz de synthèse. Donc la technologie actuelle pour le gaz de synthèse est très centrée sur le Fischer-Tropsch pour donner des alcanes linéaires, donc des carburants. Nous on va en faire plutôt des produits chimiques H2O2, CH3S-CH3, mais aussi des alcools, hein. Je l'ai montré brièvement, donc le méthanol qui est une technologie de conversion syngas relativement connue, mais des alcools un peu plus lourds. C'est là qu'il y a un petit challenge.
Deux questions qui sont reliées. Est-ce que vous avez une estimation pour le consommateur du coût de ces produits de la biomasse par rapport au coût des mêmes produits ou des équivalents liés au pétrole ? Et dans l'autre sens, est-ce que pour les producteurs, est-ce qu'il y aura un intérêt à produire de la biomasse plutôt qu'un intérêt à produire de l'alimentaire?
Alors, pour le coup, c'est un petit peu trop tôt, en fait, puisque le projet a démarré il y a un an, donc on n'a pas encore toutes les technologies, on n'a pas encore développé toutes les technologies dont on a besoin pour pouvoir faire une étude de coût. Donc on a des partenaires en économie en Angleterre, pour faire une étude de coût globale. On sait par contre ce qu'on doit faire pour réduire les coûts, et je vais répondre indirectement à votre question. En fait, dans le projet, il y a 13 partenaires industriels, dont certains sont, la plupart d'entre eux, veulent commercialiser un ou plusieurs produits précis. Et on a aussi des gens à côté du projet qui nous ont déjà dit on voudrait produire ce produit. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont le produire ou pas? C'est si on arrive à faire quelque chose qui n'a pas un coût trop élevé par rapport aux produits qui existent sur le marché et qui sont pétro-sourcés. Mais ici, je voudrais un peu rebondir sur cette partie de la question. En effet, on a deux choix quand on fait une bioraffinerie. On a un choix simple avec accès direct au marché qui est de reproduire ce qu'on fait avec la pétrochimie directement, c'est-à-dire avoir des molécules homologues de celles dérivées de la pétrochimie. Donc là, la question se pose de comparer les prix directement. Le deuxième choix, c'est de tirer parti de la nature chimique des molécules issues de la biomasse, de les modifier le moins possible, donc à un coût le moindre possible, pour obtenir de nouvelles molécules qu'on mettra sur le marché, pour lesquels il n'y a pas encore de marché, donc c'est peut-être un peu plus difficile à accéder. Il faut passer les certifications, les régulations, on a parlé de régulations, REACH, de l'Europe, hein, qui sont des régulations sur la toxicité, etc. Et donc là, on n'est pas vraiment en concurrence avec les produits pétro-sourcés, mais il faut créer un marché. Et ensuite, pour votre question concernant la partie plus amont, sur l'agriculture. Donc, un premier élément de réponse, on a un site internet et j'ai déjà été contacté par des agriculteurs qui me disent « dites-moi ce que je dois cultiver, comment je dois faire, je veux faire de la biomasse pour votre bioraffinerie ». Ensuite, est-ce que c'est intéressant pour eux? Si ça ne l'est pas, effectivement, ils ne vont pas le cultiver puisqu'on est tout de même dans un monde où on est dirigé un petit peu par l'économie. Hein. Je suis un petit peu provocateur par rapport à la première intervention, par rapport à l'intervention de mon collègue juriste. Mais on ne fait pas ça sans penser à l'éthique. Par exemple, on a un partenaire à Madagascar qui va nous fournir des huiles. S'il fait que nous fournir des huiles, ça va être terrible pour la population locale, ils vont s'appauvrir. Mais on définit ce qu'on appelle des side businesses. On a des plantes dont les feuilles peuvent être mangées par des vers à soie, donc on a une deuxième application, dont les fleurs sont butinées par les abeilles, donc on a aussi une possibilité d'avoir des ruches à côté. Je reviens aux vers à soie, ils sont utilisables comme aliments pour le bétail. Donc, dans ce concept, on essaye d'avoir quelque chose de rentable pour tout le monde. Et pour les cultures, oui, on s'arrange pour que ça soit rentable. Et non pas pour remplacer les cultures alimentaires par des cultures de chimie, mais pour obtenir une synergie maximale entre tous ces types de cultures.
Il y a une question devant.
C'est pour moi ? Oui, j'avais une petite question à propos de la gestion des déchets animaux. Vous n'en avez pas parlé, par exemple, la gestion du lisier des cochons de Bretagne. Alors, une ressource. Est-ce qu'il y a des
J'en ai pas parlé parce qu'en fait, dans ce concept de bioraffinerie, on n'utilise pas ceci comme ressource. Hein. Ce n'est pas adressé par cette bioraffinerie, on utilise les végétaux. Alors. Effectivement.
Est-ce possible?
Pardon?
Est-ce possible d'utiliser ça plutôt que...
Vous me posez une colle parce que je ne suis pas spécialiste de la question, mais je pense que c'est tout à fait possible d'utiliser, par exemple, ne serait-ce que pour obtenir ce qu'on appelle le biogaz. Maintenant, est-ce que c'est réalisable ou pas? Donc, comme je vous dis, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai entendu des études à ce niveau-là. Ce que j'ai entendu, c'est que pour que ça soit réalisable, il faut absolument qu'on ait une grande concentration de matière sur place. Et ça, c'est plutôt compatible avec les concepts américains d'élevage du bétail sur des surfaces énormes, avec toute cette matière organique présente à un endroit. Maintenant, en Europe, je vous avouerai que je ne peux pas vous donner de réponse, je ne sais pas.
Merci.
Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Est-ce que dans vos réflexions, vous intégrez la notion d'intrant pour l'agriculture? Et est-ce que c'est les plantes qui sont choisies le sont en fonction de ce critère éventuellement?
Tout à fait. Donc, nous avons des agronomistes dans le projet, donc en Grèce, à Madagascar et en Pologne. Et pour chaque plante qu'on cultive, on sait quels sont les intrants, quelles sont les conditions pour les faire pousser, etc. Tout le jeu ici qui est extrêmement complexe, c'est d'avoir des plantes qui poussent bien avec un minimum d'intrants et en même temps qui sont facilement utilisables pour les gens qui vont en séparer les constituants et pour le chimiste qui va devoir utiliser les molécules. Donc on a un équilibre très, très difficile à trouver. Mais oui, on ne va pas cultiver des plantes où on aurait besoin de trop d'intrants ou de trop d'eau pour les cultiver. C'est bientôt la pause café. Et pour produire 1 kg de café, c'est ce que j'ai entendu, il faut 10 000 litres d'eau. C'est des chiffres que j'ai entendus. Quelquefois, on ne se rend peut-être pas forcément bien compte que l'alimentaire aussi peut avoir ce genre de problème. Ici, l'avantage qu'on a avec une bioraffinerie, c'est qu'on a le choix, dès le départ, de ne pas se tromper, je dirais. Et on fait attention à ça.
Très bien. Avec ce mot, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les orateurs de cette séance.